Bonjour tout le monde. Nous recommençons dans l'Épître aux Romains. C'est le 12e message. Nous sommes dans Romains chapitre 4. Nous allons voir 4 preuves du salut par la foi et par la grâce. Dans ce message, nous allons voir qu'il y a une impossibilité. L'impossibilité du salut par la loi et par les œuvres, mais la nécessité du salut par la foi, par la grâce. Donc une assez courte mais complète révision. Nous avons appris dans Romains chapitre 1, 2 et 3 que Dieu, le Créateur, il est en colère avec l'humanité, sa création par excellence, parce que les hommes, c'est-à-dire toute personne, toute race, se sont écartés volontairement de lui et l'ont remplacé par diverses fausses représentations. Dans Romains chapitre 3, versets 10 à 12, et puis dans Romains chapitre 3, verset 23, Dieu déclare que tout homme est coupable. Or, cette culpabilité entraîne la condamnation. Pour qu'une personne soit sauvée de cette condamnation, qu'il soit sauvé de la colère de Dieu, elle doit nécessairement prendre conscience de sa culpabilité, de son état de pécheur devant Dieu et de sa condamnation éternelle. Donc, on va revoir ces choses dans le chapitre 5, ok? On va revenir sur cette pensée-là. Donc, ayant fait ces efforts, on va dire, de se sauver, de voir s'il n'y avait pas un moyen de salut par ses propres œuvres, eh bien, on va se rendre compte de notre incapacité de nous sauver par les œuvres quelconques. Et donc, la personne doit conclure que s'il n'y a pas d'intervention de Dieu par la grâce, elle est perdue. Et donc voilà la bonne nouvelle. Dieu a pourvu pour notre salut. Ce seul espoir, c'est par la foi, par la grâce, c'est Jésus-Christ. Donc, je vais lire quelques versets dans Romains chapitre 3, verset 21. « Mais maintenant, sans la foi, donc sans les œuvres, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Donc, ça veut dire que c'est le message dans l'Ancien Testament. Verset 22. « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Il n'y a point de distinction, donc personne n'a un quelconque avantage, ni selon sa race, ni selon sa richesse, tout le monde est identique. Tous ceux qui croient sont gratuitement justifiés, verset 24, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime expiatoire. Maintenant, on saute au verset 28. Car nous pensons, et quand il dit nous pensons, c'est ce mot, nous sommes arrivés à la conclusion que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, je vais retourner au verset 20. Et je vais lire Romains chapitre 3, verset 20. « Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Alors, cette phrase, « la grâce de Dieu, c'est son amour envers les indignes. C'est son amour envers nous qui sommes pécheurs. » Donc, ce qu'on a vu dans cet paragraphe, c'est que le message de l'Ancien Testament, c'est que le Dieu Saint vient au secours des hommes pécheurs. Depuis le premier homme, le premier péché, dans le jardin d'Éden, là où Adam est allé se cacher, eh bien, Dieu est venu à sa recherche et l'a appelé par sa grâce à la repentance. Alors Adam, il ne s'est pas repenti, il a dit plutôt, « Ah non, c'est sa faute à ma femme, là. » Mais quand même, Dieu est venu chercher Adam et lui demander de l'appeler à la repentance. Eh bien, c'est toujours la méthode de Dieu. Aujourd'hui même, Dieu continue la même chose pour nous, aujourd'hui, pour nous appeler à la repentance afin de croire en Jésus-Christ. Donc, maintenant, on va ouvrir le chapitre 4. Et là, Paul va présenter quatre preuves que la pratique de la loi ne sauve jamais personne. Mais que le salut est possible seulement par la grâce de Dieu sur la base de la foi dans l'évangile de Jésus-Christ. Donc, la première preuve, c'est Abraham, que les Juifs vénèrent en tant que leur père ancestral. Donc, Paul va dire que Dieu a justifié Abraham, ou que Dieu a sauvé Abraham par la foi. Romains chapitre 4, verset 1. Que dirons-nous donc que Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, lui, est imputée à justice. Donc, je voudrais définir quelques mots. Premièrement, on a ce mot « justifié ». Justifier, être justifié, c'est la justice dont Dieu, Dieu seul, est la source et l'auteur. Et donc, on dit une justice divine. Par définition de ce mot, il est impossible à l'homme d'obtenir par ses propres ressources. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu sans avoir enlevé préalablement tout péché, car Dieu est absolument séparé de tout péché. Le verset 2 dit que Abraham aurait vraiment pu se glorifier s'il avait pu se justifier devant Dieu par ses œuvres. S'il avait pu, en quelque sorte, faire que Dieu lui devait quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. La justice divine ne peut venir que de Dieu. Et oui, c'est Dieu qui a accordé à Abraham la justice du fait que Abraham avait eu confiance en Dieu. Un autre mot, imputé. Imputé, c'est à considérer comme, ou à compter ou à estimer. L'idée, c'est que l'on a fait une évaluation et déclaré le résultat. Dans notre contexte, nous sommes pécheurs, mais grâce à l'Évangile, en nous voyant à travers Christ, Dieu attribue la justice de Christ sur le compte du croyant. Donc, on va voir maintenant un autre mot, c'est le mot « œuvre ». Œuvre, comme on voit dans le chapitre 4, verset 4. Donc, ce mot œuvre vient d'un mot qui veut dire peiner. On travaille et c'est dur, c'est difficile. Donc, ça vient d'origine, le mot c'est peiner. Et le mot œuvre veut dire travailler, engager, acquérir par le travail. Personne ne peut acquérir le salut par le travail, ni par ses œuvres. Encore un autre mot, le mot salaire. Donc le mot salaire, c'est récompense ou une chose due. Alors Dieu ne doit rien à personne. Et on voit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, là, la parole dit que le salut ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et voilà, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut dire devant Dieu, « Ah ben voilà Dieu, tu me dois le salut, et donc je me glorifie de ce que j'ai pu obtenir ce salut. » Il y a encore le mot « grâce ». Donc « grâce », ça veut dire une bénéfice, ou une grâce bien sûr, une faveur, un cadeau, une libéralité. On ne mérite en rien une grâce. Une grâce vient 100% de la bonté de celui qui l'exerce. Dieu fait grâce aux impies, aux pécheurs, donc à ceux qui sont indignes, qui sont même coupables. La réponse à la question dans le verset 1, chapitre 4, verset 1, c'est qu'Abraham n'a rien obtenu selon la chair, sinon son fils Isaac et la descendance juive. La grande renommée d'Abraham est bâtie sur le fait qu'il a cru à ce que Dieu justifie l'impie. Donc, le pécheur que Abraham était et que nous sommes. Bien sûr, quand Dieu a justifié Abraham, il a lavé ses péchés, donc il n'était plus un impie. Il était toujours un être humain qui péchait, mais il était un homme pardonné. La seconde preuve vient du prophète David, que les Juifs vénèrent comme étant leur plus grand héros royal. David dit que Dieu pardonne les pécheurs par la grâce. Et là, c'est dans le verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et donc, il va citer le début du psaume 32. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce mot imputé est encore le même que tout à l'heure. Nous avons tous amassé une grande quantité de péchés sur nos comptes. Dieu devrait nous jeter dans l'étang de feu pour chacun de nos péchés. Mais au lieu de nous punir, Dieu nous fait grâce. Il nous gracie. Il couvre nos péchés par le sang de son Fils et il ne les compte plus du tout contre nous. Il nous pardonne. Alors, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Verset 10. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Le bonheur, la grâce, le pardon dont David parle, est-ce seulement pour les gens soumis à la loi de Moïse? Ou quelque part, est-ce seulement pour les gens religieux? Bien sûr que non. Car Abraham a été justifié, pardonné, sauvé, étant toujours sans circoncision, quand il était, dans l'optique juif, encore païen. Donc dans les deux premiers points, on voit que le salut du pécheur est par la foi, et par la grâce. La troisième preuve, c'est que Abraham, et que les Juifs vénèrent aussi en tant que père des Juifs. Alors, Paul va les dépeindre comme païens. Verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision, comme ceux de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, donc pas simplement héritage et tradition, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Puisque Abraham était justifié par la foi quelque temps avant la circoncision et environ 500 ans avant la loi de Moïse, il est donc le père non seulement des Juifs qui croient, mais aussi des païens qui croient. Nous notons, selon le verset 11, que la circoncision était donnée à Abraham, le païen, converti à l'Éternel, comme signe de son salut, comme le symbole de son salut. Abraham a été justifié sans la circoncision. Paul explique ceci en beaucoup plus de détails dans l'Épître aux Galates. Et je vais lire quelques versets. Galates chapitre 5, verset 2, Galates chapitre 6, verset 15, Galates chapitre 5, verset 3 et Galates 5, 6 aussi. Okay? Donc Galates chapitre 5 et verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui compte, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Donc, Paul est en train de dire oui pour la foi et non pour la loi. Chapitre 5, verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Ça veut dire que si on n'arrive pas à observer à la perfection, on sera condamné. La loi peut-elle sauver? La réponse est non. Elle produit la colère de Dieu pour la moindre faute. Et puis Galates chapitre 5 et verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissant par l'amour. Donc ce qui a une valeur véritable, Paul dit, c'est la foi agissante par l'amour. Et donc je vais lire Jean chapitre 3, versets 16, 17 et 18, qui parle de cet amour de Dieu. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça veut dire, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ rejettent l'amour de Dieu et acceptent sa colère. Avant sa conversion, Paul avait lui-même prêché la nécessité de la circoncision pour être sauvé. C'était quand il était toujours dans le judaïsme. Et comme aussi les faux chrétiens sont arrivés en Galatie Et Paul parle de ça dans Galates chapitre 5, verset 11, et aussi dans Actes chapitre 15, et verset 1. Auparavant, dans le judaïsme, Paul croyait qu'il pouvait lui-même, tout seul, se justifier devant Dieu par ses œuvres et par la pratique de la loi. Mais sa conclusion, plus tard, étant devenu chrétien, c'est que la religion, les œuvres et la pratique de la loi ne peuvent jamais apaiser la colère de Dieu. Pour devenir un homme heureux, Paul a reçu le pardon de Dieu dont David avait parlé. Il a cru en Jésus-Christ et Dieu a couvert tous ses péchés. Ainsi, nous concluons avec la parole de Dieu que le salut n'est pas obtenu par la religion, le salut n'est pas obtenu par l'argent, le salut n'est pas obtenu par les rites comme le baptême des enfants et la circoncision, le salut n'est pas obtenu par des bonnes œuvres, le salut n'est pas obtenu par l'héritage familial. Puis le quatrième point, la quatrième preuve, c'est que la loi de Moïse révèle la colère de Dieu contre tout péché commis par l'homme. Donc, au lieu de sauver les pécheurs, la loi condamne. Verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Si le péché n'existait pas, il n'y aurait pas besoin de loi pour rendre manifestes les transgressions. Mais voilà, le péché existe, la loi existe, et la conclusion, c'est que l'homme est coupable de transgression, d'ailleurs de beaucoup de transgressions. Voici donc la conclusion, c'est que le salut est par la foi, par la grâce de Dieu, autant pour les païens qui croient que pour les juifs qui croient. Puis verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit. Et donc, avant de lire ce qui est écrit, je vais sauter dans les évangiles où Jésus dit dans Jean chapitre 10 et verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Donc, cette bergerie, c'est la bergerie judaïsme, c'est les juifs, les gens dans le judaïsme qui ont confiance dans la parole de Dieu. Mais il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et là, il parle du christianisme qui est toujours à l'avenir quand il dit ça. Il y a un troupeau, donc les croyants en Jésus-Christ, et un seul berger, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a fait la promesse d'un héritage à Abraham concernant les futurs croyants, juifs et non-juifs. Abraham avait cru à cette promesse, et c'est la raison même pour laquelle Dieu l'a justifié et lui a donné le symbole de la circoncision. Verset 17. Donc on a dit au verset 16, « Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, et verset 17, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Donc, nous allons voir deux phrases dans ces versets. Donc, premièrement, Dieu qui donne la vie aux morts. Abraham croyait à la puissance de Dieu pour ressusciter les morts. Donc, ceci est la puissance du Créateur, de prendre une chose morte, une chose non vivante, et rendre la vie, donner la vie. L'autre phrase, Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc encore, on parle de Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur. Abraham croyait, comme nous avons vu dans la prédication sur Hébreux chapitre 11, verset 1, que l'accomplissement de la parole de Dieu est aussi certain que le fait que Dieu soit Dieu. Ce que Dieu promit, il accomplit. Verset 18. Donc, parlant d'Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Donc, il a cru à ce que Dieu avait dit. On va voir ça dans une petite phrase là. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Donc, Dieu lui avait parlé, il a dit ça, et Abraham a cru à la parole que Dieu a exprimée. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc, je vais simplement dire en passant qu'on ne parle pas ici de magie. On ne peut pas dire que voilà, je pense quelque chose et donc avec ma pensée positive, ça va se réaliser. On ne parle pas de une foi qui est basée sur n'importe quelle chose, ni sur moi-même, ni sur le journal, ni sur les dires de n'importe qui. On parle de la foi qui est convaincu que la parole de Dieu s'accomplira. La foi dans la parole de Dieu. Donc on a cette phrase, espérant contre toute espérance, il crut. C'est une belle expression. Abraham n'a permis à rien de le dissuader de croire à la promesse de Dieu. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi. Alors nous avons étudié dans les dernières quelques semaines la foi et les soutiens de la foi. Jésus a dit à un homme une fois, il a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Douter est une contradiction avec la foi. Puis à un autre homme, Jésus a dit, « Ne crains pas, crois seulement. » Donc craindre, avoir peur, est aussi une contradiction vis-à-vis de la foi. Crois seulement. Mes amis, il faut rejeter les fausses pensées. Il y a plein de fausses pensées, mais je vais donner trois catégories des fausses pensées. Il y en a qui pensent, je suis trop méchant pour être sauvé. C'est faux. Il y a d'autres qui disent, je suis tellement bon que je n'ai pas besoin d'être pardonné. C'est faux. D'autres disent, je veux être pardonné, mais je veux payer ma part. C'est faux aussi. Ce sont des mensonges. Il faut rejeter ces idées-là. Nous ne devons pas ni douter, ni craindre. Soyons fermes dans notre foi. Maintenant, au verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Donc, Moïse a écrit le texte de la Genèse quelques 500 ans après que Dieu avait fait ses promesses à Abraham. Certes, Dieu a honoré Abraham en écrivant ses récits, et aujourd'hui Abraham au paradis, certainement il apprécie que Dieu a inscrit ses promesses dans sa parole. Abraham est certain que Dieu va les accomplir. Donc, quand on a fait l'étude dans l'Épître aux Hébreux, on a vu qu'Abraham est mort sans avoir obtenu les promesses. Ces promesses qui restent encore à accomplir, pas tous, mais certains. Donc, voilà pourquoi le texte est écrit. Le texte a été écrit surtout pour apprendre aux Juifs, et puis à nous aujourd'hui, d'avoir confiance en Dieu comme Abraham avait confiance en Dieu. Et c'est cela qui est dit dans les prochains versets, donc verset 23, « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Je voudrais relever encore quelques expressions. On a vu dans l'introduction, j'ai cité Romains chapitre 3, verset 27, avec la petite phrase « la loi de la foi ». La loi de la foi. Le principe de la foi est infiniment mieux que la loi des œuvres. La loi des œuvres condamne l'imperfection. Et nous sommes tous imparfaits. Mais la loi de la foi ouvre la porte au salut pour les pécheurs que nous sommes. Dieu récompense la foi. On le lit en Hébreux chapitre 11 et verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qu'il cherche. Donc ça, c'est concernant la petite phrase, la loi de la foi. Maintenant, chapitre 4 et verset 13, on a cette phrase, la justice de la foi. Et dans chapitre 9, verset 30, cette même idée est donnée avec cette expression, la justice qui vient de la foi. Donc c'est ici la justice que Dieu attribue. Nous avons parlé de ce mot, justice, tout à l'heure. C'est la justice que Dieu attribue, que Dieu impute, que Dieu seul peut accorder à celui qui a confiance en lui. Encore une autre petite expression, l'héritage du monde. La seule raison pour laquelle Paul invoque cette idée, c'est qu'il y aura un héritage du monde. Dieu a fait des promesses à Abraham qui restent encore non accomplies. Et puisque Dieu tient parole, la promesse que les croyants vont obtenir le monde en héritage reste encore à s'accomplir. L'idée du millénium, donc l'idée du royaume du Christ sur la terre pendant 1000 ans, qui est écrit dans Apocalypse chapitre 20 et qui est beaucoup détaillé dans l'Ancien Testament, fait partie intégrale du message biblique, de l'espérance biblique. Et puis, une autre expression, la pleine conviction. Jésus a déclaré, « Si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ce que vous croyez concernant Dieu est très important. Jésus est l'éternel Dieu. Il est venu sur terre, il est devenu pleinement humain. Pourquoi? Pour nous sauver. Le Dieu éternel est le Dieu tout-puissant. Le Dieu éternel est le Dieu créateur. Puisque Dieu peut tout faire, rien ne lui est impossible. Et donc, vous pouvez compter sur lui. Vous devez compter sur lui. Vous pouvez avoir, comme on a cette expression, la pleine conviction. Et bien sûr, comme Abraham lui-même, vous devez avoir cette pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ainsi, pour être sauvé, il suffit de croire en Jésus-Christ. Comme Paul a dit au geôlier, croire au Seigneur Jésus et tout sera sauvé. Et c'est le même message pour tout le monde. Et puis Philippe a dit à l'Éthiopien que on ne peut pas baptiser les non-croyants. Il a dit à l'Éthiopien que le baptême est réservé aux personnes qui ont déjà cru en Jésus-Christ et il dit de tout leur cœur. Donc il n'y a pas de place pour le doute, ni pour les idoles, ni pour les anges, ni pour les saints, ni pour la religion, ni pour les œuvres. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Il réclame toute votre confiance en lui seul. Aujourd'hui, nous avons vu quatre preuves bibliques que la loi ne sauve jamais personne, mais que par la grâce de Dieu, par la grâce, Dieu sauve sur la base de la foi en Jésus-Christ. Voilà les quatre preuves, juste en résumé. La première preuve, Dieu a justifié Abraham par la foi. Seconde preuve, David dit que Dieu pardonne les pécheurs par la grâce. Troisième preuve, Abraham a été justifié quand il était encore païen. Et quatrième preuve, au lieu de sauver les pécheurs, la loi condamne. Que devez-vous faire avec cette information? J'ai trois suggestions. Premièrement, fortifiez-vous par l'assurance que vous donnent les Écritures concernant votre salut. Ayez une pleine conviction. Deuxième chose, aidez vos amis à comprendre que le salut n'est pas dans une religion, ni dans une pratique, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, vous pouvez aussi essayer d'avertir vos amis que leur avenir éternel sera géré par comment ils acceptent ou rejettent Jésus-Christ. Soit leur avenir sera géré par l'amour de Dieu en Jésus-Christ, pour ceux qui croient, soit par la colère de Dieu sans Jésus-Christ pour ceux qui ne croient pas. Alors j'espère que ça vous aide à comprendre que vous ne pouvez pas obtenir votre salut vous-même. C'est Dieu seul qui est capable, mais qui veut bien vous justifier par la foi, par sa grâce, si seulement vous croyez en Jésus-Christ. Amen.